20 ans que je vais chaque année au Groenland, et je peux vous dire, les jeunes générations ne rêvent que de ça. Donc, il faut mettre un petit motto. Évidemment, les sociétés comme les nôtres, on n'est pas content, l'impact que ça aura, le changement de vie. Et je ne dis pas que c'est positif. Hein. Et donc, voilà, donc, je fais exprès de prendre le contre-pied pour que les gens réagissent un peu. Alors, faut-il agir contre le changement climatique? Est-ce raisonnable? Est-ce possible? Est-ce réaliste? Alors, si quelqu'un veut répondre à ça, et est-on prêt à faire ce sacrifice? Commencez par mon collègue à la droite.
Vous m'entendez? Oui. C'est plein de questions très difficiles et très différentes. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on va réussir à le faire? C'est des questions qui sont entièrement différentes. Et puis, est-ce qu'il faut réagir? C'est pas forcément, ou est-ce qu'il faut faire quelque chose? C'est pas forcément tout le monde qui peut réagir de la même manière, même si on décide tous de réagir. Je dirais que nous, on va pas forcément souffrir du changement climatique. Nous, c'est en Europe et c'est maintenant. Ceux qui vont souffrir, c'est à la fois ceux qui sont dans des zones géographiques où ça va être beaucoup plus intense et dans les générations futures. Et ces changements, ils vont être... ça va être des changements. Ce que ça implique, c'est pas forcément... que c'est pas bien, le changement c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'on peut pas vivre avec une planète qui fonctionne complètement différemment avec un système qui correspond au changement, au système d'avant. Donc si on a une planète qui change, il faut avoir un système qui change, et j'espère quand même qu'on a réussi à montrer à la fois du côté du climat et du côté de la biodiversité que ces changements vont être drastiques et problématiques pour l'humanité, problématiques pour la biodiversité, problématique pour l'humanité au travers de la biodiversité, et que même s'il y a peut-être des gens qui sont contents au Groenland, je ne suis pas sûr que les ours polaires qui sont à côté soient contents, eux. Et puis, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques endroits où la vie va être moins dure s'il fait moins chaud, mais franchement, par rapport à l'ensemble de l'humanité et par rapport à l'ensemble... alors je sais bien que c'est de la provocation, hein. Évidemment il y a des gens qui vont tirer leur épingle du jeu comme dans tous les systèmes, et ça fait partie aussi des difficultés à changer, c'est que les gens qui ont le moins à gagner à changer ou le plus à perdre à changer le système actuel sont souvent ceux qui verrouillent le système actuel, que ce soit au niveau financier, au niveau politique, et donc c'est pour ça que c'est effectivement difficile et que les solutions qui sont, je pense, on va en parler, à la fois individuelles et collectives, ne sont pas forcément faciles à mettre en place.
Oui, on revient sur le point que vous avez développé, c'est sur l'injustice du changement climatique qui va toucher les plus défavorisés.
Alors ça, en fait, j'ai l'impression que l'injustice, on va en parler tout à l'heure avec notre collègue philosophe de l'environnement. Moi, je ne vais pas tellement répondre là-dessus parce que j'y connais rien, je ne suis pas du tout expert.
On peut le voir de plein de manières différentes. Mais finalement, la question que vous posez, c'est une question d'un point de vue de nos choix de développement, essentiellement. Et de ce point de vue-là... La question du climat, la question de la biodiversité, il faut la situer beaucoup plus largement dans le cadre de la réflexion qui est menée partout sur ce que c'est un développement soutenable, plus largement. Il y a plein de dimensions à un développement soutenable. Mais l'idée, c'est permettre à tous de vivre dignement dans toutes les dimensions que ça implique. Et ce qu'on montre, en fait, en termes d'évaluation du changement climatique, c'est que si on veut assurer un développement soutenable pour tous, partout, sur le long terme, si on ne maîtrise pas l'évolution du climat, ça va être impossible. Si on veut permettre de conserver la biodiversité dans les océans, les côtes, comme sur les continents, si on ne maîtrise pas l'évolution du climat, ça va être impossible, en réalité. Voilà. Donc, soit on agit, on décide d'agir, on se donne les conditions d'agir, et on est maître de transformation, soit on ne fait rien, continue comme avant. C'est quoi, continuer comme avant? C'est une forme de facilité. Et si on continue comme avant, on va subir des changements prévus ou imprévus auxquels on devra faire face. Donc on sera plutôt en situation de gestion de crise que de transformation construite, planifiée et choisie. Moi, je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut voir les choses. Et j'ai aussi été souvent au Groenland. Et c'est contrasté au Groenland comme partout ailleurs. Il y a un mélange en fait complexe d'opportunités et de vulnérabilités et aussi d'aversion au changement. Alors les Groenlandais ils sont particuliers parce qu'ils revendiquent leur capacité d'adaptation qui leur a permis de survivre dans les conditions parmi les plus hostiles. Et leur société elle s'est transformée profondément, vraiment profondément au cours des dernières décennies plus qu'ailleurs. Et je pense que peut-être la réflexion qu'on peut avoir c'est comment on se positionne par rapport à un changement choisi ou subi. Ça c'est un premier aspect. Et pour revenir sur la question d'un développement soutenable, d'un développement où on regarde ce qui ne va pas aujourd'hui, on cherche à l'améliorer partout, la pauvreté qui existe partout, hein, des problèmes d'insécurité alimentaire ou de mauvaise nutrition qui existent partout, partout, y compris dans les pays les plus riches. Dans le cadre de cette réflexion-là, sur comment on veut améliorer les choses, comment on se projette dans 20, 30 ans, on rentre la question du climat comme un élément parmi d'autres. Ce n'est pas le seul, mais c'est un élément parmi d'autres. Et je pense que c'est une opportunité pour se projeter dans l'avenir, réfléchir ensemble à ce vers quoi on veut aller. Et quand on pense ces transformations vers un développement qui soit plus soutenable, notre développement ici, partout, n'est pas soutenable. La pression qu'on exerce sur les terres, l'augmentation des inégalités dans le monde, c'est quelque chose qui n'est pas soutenable, c'est une évidence. Et on voit une augmentation d'instabilité sociale dans beaucoup de pays, parce que beaucoup de personnes se soulèvent finalement, on peut parler de la Bolivie, du Chili, de l'Iran ou ailleurs, pour un ensemble de raisons, et qui expriment un mécontentement très profond sur la façon dont leur société évolue. Donc finalement, sur la question du climat, pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est le fait de penser des transitions, et des transitions qui soient éthiques, c'est-à-dire climat et biodiversité, des transitions qui soient équitables, des transitions qui soient justes, où on protège les plus vulnérables, partout, et où chacun fait sa juste part. Et c'est pour ça qu'en fait, au fond, c'est aussi un enjeu majeur de démocratie. Avec des initiatives récentes, qui sont pour moi vraiment remarquables, l'initiative de l'Assemblée citoyenne en Irlande, qui a réfléchi sur des questions profondes de société, donc des citoyens tirés au sort pour représenter la société, qui étaient beaucoup plus avancés finalement que leurs élus, sur la question par exemple de l'action pour le climat, beaucoup, beaucoup plus avancés. Et c'est un exercice qui est aussi en cours dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat en France, avec des gens tirés au sort pour représenter la société dans toute sa diversité, qui s'approprient cette question et qui réfléchissent, pas simplement en fait à la question du climat, mais à ce qu'on pourrait améliorer et ce qu'on peut faire aussi pour avoir un développement qui plus juste, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et dernière chose, il y a aussi des opportunités. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui vont être porteuses de solutions, pour faciliter l'adaptation, la gestion de risque, pour l'hydrologie ou d'autres, les entreprises qui vont apporter des solutions qui permettent de faire mieux en ayant moins d'émissions de gaz à effet de serre, elles vont avoir des avantages compétitifs énormes. Et on peut le voir dans le monde entier aujourd'hui, il y a des ruptures qui se produisent. Il y a des ruptures sur ce que sera la voiture de demain. Et ce ne sera pas une voiture à pétrole, c'est sûr. C'est sûr. Pour des enjeux de qualité de l'air, d'engorgement, de plein d'autres choses. Il y a des ruptures qui se font sur produire de l'électricité non carbonée, l'éolien offshore, le photovoltaïque, avec des solutions complètement autres, pas les mêmes, du tout les mêmes systèmes énergétiques qu'aujourd'hui, qui vont être vitaux pour donner accès à l'électricité dans les zones rurales, en particulier dans les régions tropicales. Donc il y a ces ruptures qui sont là, et ceux qui sont aux avant-postes, c'est ceux qui vont aussi créer des emplois pour demain. Et à côté de ça, on a les marchands de doute, qui sont très présents, qui sont ceux dont les capitaux sont investis dans ce qu'il y a le plus à perdre en cas de transformation. Et ceux-là, ils sont aux abois. Ils ne sont pas capables de réinventer leur modèle d'affaires. Ils ne sont pas capables de penser à réorienter leur capital. Ils sont aux abois parce qu'ils voient qu'ils ont tout à perdre. Et ils vont tout faire pour semer le doute et ralentir toutes ces transformations.
Oui, merci. Moi, pour la question suivante, et puis vous pouvez commenter là-dessus après, un des gros problèmes que je vois dans le changement climatique, c'est que c'est un phénomène global. On nous dit que ce qui se passe au Luxembourg, ce n'est pas dû seulement à ce qui est au Luxembourg, c'est les autres aussi, c'est la majorité des gens. Et donc, il semblerait qu'il faut une solution globale. Et on sait actuellement ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, qui se retire de beaucoup de traités, etc. Alors, ma question sera plus simple que de parler de ça, parce qu'on peut en parler longtemps, mais qu'est-ce que le citoyen luxembourgeois, aujourd'hui, dans sa petite ville, peut faire contre le changement climatique, pour aider à atténuer les effets du changement climatique? Avez-vous une idée de ce qu'on pourrait faire?
Je peux juste dire un mot?
Oui, bien sûr.
Je suis content que tu aies utilisé le mot « atténuer », parce que j'étais un peu surpris que les deux termes n'ont pas encore été utilisés ce matin, il me semble. « Adaptation, mitigation ». Donc l'adaptation au changement du climat, ou au contraire, faire vraiment de manière proactive quelque chose pour inverser la tendance. Et des fois, j'ai l'impression que parce qu'on vit dans un petit pays, parce que bah, ça peut s'appliquer peut-être même à des pays de la taille de la Belgique ou des Pays-Bas, bah, on va plus faire des choses pour réduire le plus possible les effets, parce qu'on se dit, oh, bah, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre petite échelle, petit pays. C'est un réflexe, c'est facile, c'est pratique. En plus, on a les ressources économiques, peut-être pour le faire. Et alors que d'autres pays, j'en sais rien, je cite au hasard le Bangladesh, bah, ils sont aux premières loges et ils n'ont pas forcément les moyens qu'ont, par exemple, les Pays-Bas, un pays riche, qui avait, il y a quelques années, qui avait lancé un programme « Make the Netherlands climate proof ». Ça veut tout dire. On va se protéger, on va rehausser des digues ou je ne sais faire quoi. Et voilà. Peut-être que vous avez une idée là-dessus.
Donc je ne parle pas comme coprésidente du GIEC, je ne parle pas comme scientifique, je parle comme citoyenne. Okay ? Moi, je pense qu'on a tous des leviers d'action, tous, à toutes les échelles, mais plus on a un niveau de responsabilité important, plus on a des leviers d'action importants. Et en termes d'action, c'est vraiment l'union qui fait la force. C'est pas une personne toute seule, isolée, qui essaye désespérément de changer les choses. C'est vraiment de mettre en place des choses structurantes, des communautés de gens qui agissent dans les cadres professionnels, associatifs, éducatifs, universitaires, collectivement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est difficile d'agir, c'est difficile de penser les choses autrement, parfois on se plante, ça marche pas. Et donc, apprendre de ce qui marche, de ce qui marche pas, échanger, c'est quelque chose d'assez fondamental. Donc, le Luxembourg, comme les autres pays européens, il est dans une situation particulière. Pourquoi ? Il y a une responsabilité historique sur les émissions, première chose. Deuxième chose, il y a une capacité à agir, il y a un capital financier, intellectuel, qui est important. Et donc si les pays comme les nôtres ne font rien, il ne se passera rien nulle part. C'est une évidence. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a vraiment une responsabilité importante. Après, comment est-ce qu'on peut agir ? Bah, c'est très simple. On mesure. Qu'est-ce qu'on émet comme gaz à effet de serre chacun ? Des outils de bilan carbone. Première chose, sinon c'est invisible, on est complètement en aveugle. Donc la première chose, c'est mesurer. Mesurer ce qu'on fait chez soi, mesurer ce qui est caché, c'est-à-dire dans les importations, dans les flux financiers aussi. Le Luxembourg, c'est une place financière importante. Il y a une révolution qui est à l'œuvre du côté de la finance en Europe, avec la volonté de construire une finance qui soit verte et qui va avoir des implications sur là où on choisit d'investir, là où les particuliers qui ont un capital choisissent de confier leur épargne. Cette transparence-là, elle est essentielle. Donc ça, c'est la première chose, mesurer. Comme je vous le disais, 17 tonnes par personne et par an, il y a un chouette potentiel. Plus vous émettez, plus vous avez une marge pour réduire. Plus c'est bas, plus c'est difficile de gagner, en réalité. Voilà. Donc il y a ces aspects-là qui me semblent importants. Et puis l'étape d'après, c'est se doter d'une stratégie collectivement. Collectivement, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une collectivité, à l'échelle, par exemple, d'une université ou à l'échelle d'un pays. Quelle est la stratégie ? Sur quoi on veut agir ? Je crois que l'engagement du Luxembourg vis-à-vis de l'Union européenne, c'est de baisser de 40% à horizon 2030 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et c'est à mi-parcours aujourd'hui. Mais ça ne baisse plus. On est dans la même situation pour la France. Ça a baissé, ça ne baisse plus. Pourquoi ? Parce que les choses qui faciles ont été faites, les choses qui ne coûtent pas, en fait, qui sont rentables. Ensuite, parce qu'on a délocalisé l'industrie lourde, donc c'est la Chine qui émet, ou la Pologne, ou les autres. Et donc là, c'est vraiment les choix de consommation qu'on a qui pèsent. Et ils pèsent. Les normes qu'on se met en Europe pèsent au niveau mondial, au niveau de l'industrie mondiale. Et puis, les choses qui restent à faire, c'est des choses profondes, diffuses. Ce n'est pas un industriel ou cinq industriels qu'on met autour de la table. C'est par exemple comment on se déplace. Essentiel. Comment on se déplace ? Voiture individuelle de plus en plus grosse ? Les SUV, c'est le deuxième facteur dans le monde qui font monter les émissions de gaz à effet de serre. Et quand on se déplace dans une voiture plus grosse, ça efface tous les gains technologiques sur l'efficacité des moteurs. Donc en fait, c'est une aberration écologique. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'à un moment donné, on encadre la publicité, par exemple ? Parce que le fait d'acheter des SUV, ça ne vient pas tout seul. Hein. Ce n'est pas chacun qui se lève le matin qui dit « je veux une grosse voiture ». Il y a un matraquage publicitaire. Donc il y a vraiment des choix qui peuvent être structurants par rapport à ce qu'on accepte en termes de publicité. Vous ne produisez pas, vous, les SUV, donc vous êtes libres. Nous, en France, on les produit, c'est plus compliqué. Ensuite, il y a le chauffage, l'isolation, la performance des bâtiments. Ce n'est pas facile, en fait, de faire des progrès dans ce secteur-là. C'est structurant, ça demande de mettre en place des filières efficaces. Mais c'est quelque chose d'essentiel par rapport à la partie chauffage. Voilà, j'ai donné quelques exemples, mais qui montrent à quel point c'est important d'avoir des outils de diagnostic, de se doter d'une stratégie, et puis après de la mettre en œuvre, ce qui n'est pas simple non plus. Vérifier que les choses marchent, identifier ce qui ne fonctionne pas pour corriger, pour avancer. Et c'est pour ça, par exemple, qu'en France, le gouvernement français a mis en place l'année dernière le Haut Conseil Climat pour avoir une espèce d'instance scientifique indépendante qui fait ce point, quoi. Où on en est, pourquoi, quelles sont les tendances lourdes, où sont les signaux d'alerte. Par exemple, nous, on compte beaucoup sur nos forêts pour stocker du carbone, mais en fait, pas de chance. Quand il fait plus chaud, plus sec, elles ne poussent pas si bien. Et donc, c'est aussi important d'avoir ces leviers-là, ce regard-là, pour voir en fait la plausibilité d'une stratégie et puis la réajuster pour qu'elle fonctionne.
Pour continuer là-dessus, je dis souvent, en fait, quand on me demande qu'est-ce que nous, on peut faire, pauvres petits citoyens consommateurs, en fait, on oublie qu'on a le pouvoir. On a deux cartes dans notre manche qui sont deux cartes essentielles. D'abord, on a la carte d'électeur. C'est-à-dire que les politiciens, en fait, ils ne font pas ce qu'ils ont envie de faire. Ils font ce que vous avez envie parce qu'ils veulent être réélus. Pour être réélu, il faut qu'ils vous satisfassent. Donc, si vous, tout ce que vous leur demandez, c'est « moi, je veux payer moins d'impôts », eh ben, c'est le politicien qui a comme programme « n'écoutez pas les trucs sur les écolos apocalyptiques, moi, je vous ferai payer moins d'impôts ». Et si vous vous dites « moi, je veux qu'on lutte contre le changement climatique et le changement global en général », eh bien, c'est ce qu'ils vont projeter comme, et mettre en place comme programme. Ça, c'est la première carte, la carte d'électeur. La deuxième carte, tout simplement, c'est la carte bleue, c'est la carte de consommateur. Si votre carte bancaire fait que vous arrêtez de soutenir financièrement des entreprises qui ne vont pas dans le sens dans lequel vous voulez qu'ils aillent, eh bien, tout simplement, les industriels, ils vont arrêter de produire des choses qui ne sont pas achetées. Et ils vont produire des choses qui sont achetées. Et donc, ce que vous achetez, en fait, va définir ce qui va être produit dans 20 ans, dans l'année suivante. Et c'est aussi simple que ça. Si individuellement, chacun, on fait ces choix-là, avec ces deux cartes, évidemment que ça va changer. Et l'argument de « oui, mais moi, je suis tout seul, je ne peux rien faire tout seul », il ne tient pas pour deux raisons. D'abord, parce que si moi, je suis dans un bateau qui prend l'eau et qu'on a tous de quoi écoper et que j'en vois un qui écope pas, je ne vais pas m'arrêter d'écoper. Je vais suivre mes propres valeurs. Je ne vais pas aller à l'encontre de mes valeurs sous prétexte que d'autres ne le font pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un faux raisonnement que de penser qu'individuellement, on n'a pas de poids, parce qu'on n'est pas individuel, on est énormément, on est très nombreux. Si on est des centaines de milliers, voire des millions à faire un choix, évidemment que ça va avoir un impact des millions de fois supérieur à notre propre impact. Et on n'est pas tout seul à se dire « ah oui, mais je suis tout seul, je ne vais rien faire, parce que mes changements à moi, mes choix à moi n'ont pas de poids ». Si on est des millions à se dire ça et à rien faire, évidemment qu'on met un frein énorme au changement.
Pour un petit peu schématiser ce que vous avez dit, finalement, c'est que chacun prenne une conscience individuelle et qu'il prenne une position et qu'il se... Alors, ça, évidemment, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il faut que les gens soient convaincus, il faut argumenter, leur expliquer que ne
pas
plus avoir la SUV dans le garage, c'est bien pour le climat.
Pas forcément, on change très rapidement. Si vous prenez des changements très, très, très radicaux qui ont eu lieu il y a quelques années seulement, il n'y a pas si longtemps que ça, on aurait fumé dans les espaces publics, ça nous paraîtrait... Voilà, moi j'ai été élevé avec mes parents qui fumaient dans la voiture. Et ça paraît maintenant complètement inconcevable. Mais maintenant, on le fait. Et puis on a des ceintures de sécurité, y compris derrière, ce qui n'était pas le cas quand j'étais jeune. Maintenant, on va dans un supermarché avec un sac, ce qui était complètement inconcevable il y a 10 ans.
Il a fallu des années.
Oui, mais en fait, on est dans une époque où le changement des habitudes... et de plus en plus rapide.
Ouais.
On prend l'habitude de changer nos habitudes.
Et c'est pour ça que j'ai bien aimé dans votre présentation d'avoir posé la question au public, est-ce que vous avez un cours sur le changement climatique ? Et je pense que ce serait très important que les plus jeunes, moi j'ai vu par exemple sur la sécurité routière, d'avoir des choses très tôt, marquent un effet très positif et très profond sur les enfants. Mais je veux un peu vous couper parce que je pense qu'il faut donner la possibilité au public de réagir aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Ah!
Il y en a une, c'est nous-mêmes. N'oublions pas que durant les canicules, en 2003, 8000 morts en France. Cette année, combien ? Bon, l'ordre de grandeur, donc des milliers de morts. Cette année, d'après les derniers résultats, encore 1500, malgré les différentes campagnes de prévention. Et ces morts sont liées, je dirais, à la période caniculaire. Or, cette période caniculaire a toujours existé. Seulement, il y a notre habitat qui a changé. Vous-même, précédemment, il y a moins de 5 minutes, vous aviez dit, oui, les besoins énergétiques en hiver. Or, actuellement, pour avoir un logement décent, il faut consommer beaucoup d'énergie et des calculs de justement énergétiques montrent que la climatisation est énergie vorace. Que ça soit de l'énergie électrique venant des centrales nucléaires ou de l'énergie électrique verte, un kilowatt électrique rejette 6 kilowatts de chaleur. Donc ce que l'on fait au travers des nouveaux moyens de construction, très bien isolés, très bien pour l'hiver, mais on n'exploite plus les qualités et les propriétés physiques de certains matériaux. Je m'explique. Oui, non, mais la question, elle va découler tout naturellement là-dessus. C'est que, je prends le cas de la maison bois. La maison bois, en plus de cela, on nous dit, voilà, il faut l'éclairer maximal, avec un éclairage maximum au sud. Moralité, le bois, lui, n'accumule pas de chaleur. Et les vitres plein sud, même si vous les protégez, il y a toujours une certaine déperdition, donc des entrées de chaleur en été. Ça oblige la climatisation, et comme je l'ai dit précédemment, ça demande énormément d'énergie. Alors que, je prends nos parents, ne souffraient jamais de la chaleur, en été dans leur maison construite en bois, construite en pierre, en béton ou en aglo ou en brique rouge ou en terre cuite, et des fenêtres de taille raisonnable et judicieusement orientées, il n'y avait pas ces besoins de climatisation. Voilà tout ce que je voulais dire.
Vous n'avez pas de question, en fait. Vous avez une question ou...
Non, je voulais
une
juste...
intervention.
C'est-à-dire que c'était une simple intervention. Merci. Qui répond à une question que j'aurais pu poser. Voilà. Est-ce que notre mode de fonctionnement actuel n'est-il pas responsable également de ces nouveaux besoins en été?
Quelqu'un veut répondre? Nous n'avons pas d'ingénieur.
Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des enjeux majeurs dans le secteur du bâtiment, dans deux dimensions. Oui. Le premier, en fait, c'est baisser les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie de la construction, de l'usage et du démantèlement des bâtiments, pas simplement l'usage. Mmh. Et la deuxième chose, c'est effectivement renforcer la résilience ou la performance des bâtiments pour assurer un confort de vie dans un climat qui change. Et il y a un enjeu tout particulier par rapport aux effets d'îlots de chaleur dans les villes, avec les vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Et en effet, vraiment un enjeu très particulier sur ce point-là.
Tout à fait, tout à fait. En réalité, ces enjeux, pardon, je ne monopoliserai pas le temps de parole, ces enjeux sont liés à notre production électrique avec des générateurs de vapeur qui dégagent énormément de chaleur, que ce soit le charbon ou le nucléaire.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Et les jeunes aussi, hein, montrez-vous un peu.
Oui, moi je voudrais poser la question de la fiabilité des modèles prédictifs qui sont utilisés. Est-ce qu'on a suffisamment de données pour faire fonctionner ces modèles ou bien est-ce qu'on est obligé de faire un certain nombre d'hypothèses et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elles valent? Et puis est-ce que ces modèles prédictifs sont capables quelque part de prendre en compte la manière dont la nature va répondre aux changements qui sont infligés?
Alors, je pense qu'on peut répondre tous les deux parce qu'on va répondre sur des choses très très différentes. Moi, je peux répondre sur la biodiversité qui est intrinsèquement énormément plus complexe que le climat, d'abord parce qu'on connaît beaucoup moins, ensuite parce qu'il y a des milliers d'espèces en interaction les unes avec les autres, avec plein de boucles de rétroaction, etc. Et parce qu'on est pas mal en retard par rapport aux climatologues qui ont fait des choses de manière globale plus tôt, et sur lesquelles nous on s'appuie. Donc ça accumule les incertitudes. En fait, pour les études de perte de biodiversité due au changement climatique, on a des études qui sont très très diverses. On a des études qui se focalisent sur certains groupes d'espèces. On a des études qui se focalisent sur certains impacts, sur certaines métriques de la biodiversité. Est-ce que c'est des pertes de population? Est-ce que c'est des pertes d'espèces? Est-ce que c'est des raccourcissements de taille d'air vital, etc. On a des échelles spatiales qui sont très différentes, est-ce qu'on est à l'échelle d'une population ou d'un continent, et on a des échelles temporelles qui sont très différentes, est-ce qu'on regarde à 2030, 2050, 2100, etc. Donc les études ne sont pas vraiment comparables les unes avec les autres, mais toutes indiquent une perte de la biodiversité avec des fractions très importantes. Donc on ne peut pas dire avec certitude on va perdre 17,4% des populations d'oiseaux sous les tropiques. Mais on peut dire avec certitude, on va perdre énormément d'espèces. Donc c'est vrai que au niveau de chaque modèle individuel, on a à chaque fois des incertitudes, hein, mais qui sont parfois assez larges. Mais dans l'ensemble des modèles, qui sont très différents, avec des métriques différentes, avec des outils différents, avec des hypothèses de base différentes, toutes montrent une grosse perte de biodiversité.
Alors sur la partie climat, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas ces processus biologiques complexes et qui ne sont pas complètement compris. Donc quand on s'intéresse aux fluides, hein, l'océan, l'atmosphère, on connaît bien leurs caractéristiques. Donc en termes de modélisation du climat, c'est vraiment à base physique, les équations de Navier-Stokes, les transferts de rayonnement, la représentation de l'ensemble des processus, y compris le cycle de l'eau et des interactions entre les compartiments. Là où on est sur des choses difficiles, c'est par exemple la limite par la puissance de calcul. Donc, comme on est limité par la capacité des plus gros calculateurs dans le monde entier aujourd'hui, on va résoudre ces équations sur des grandes mailles. Typiquement, on est à 50 km par 50 km pour l'atmosphère. C'est-à-dire que les processus plus fins, on les schématise. Donc on va combiner des modèles beaucoup plus sophistiqués qui vont résoudre par exemple chaque nuage sur des périodes très courtes ou des études de cas avec ces modèles plus grossiers pour vérifier que la représentation simplifiée est adéquate. Donc ces modèles de climat à base physique, il en existe une quarantaine dans le monde aujourd'hui. Chaque groupe fait des choix différents de résolution numérique ou de représentation de ces processus pas complètement résolus à partir d'équations de base, pas complètement résolus d'un point de vue théorique. Et on va confronter leurs résultats. On va les confronter entre eux, qu'est-ce qui est robuste ou pas, et on va les confronter à tout un ensemble de réalisations. Donc, par exemple, sur des simulations de climat passé, des périodes chaudes géologiques, climat glaciaire, les derniers 2000 ans, ça fait partie des cas typiques. On va regarder les tendances sur les périodes récentes, on va regarder leur représentation de processus, des structures de variabilité du climat, et ensuite on va les confronter entre eux en fonction de différents scénarios sur des évolutions futures. Et donc quand on rapporte leurs résultats, finalement, on va rapporter une dispersion de modèles, mais on va aussi rapporter la confiance qu'on accorde à telle ou telle projection. Notre confiance, elle est élevée sur le bilan d'énergie dans le système climatique. Notre confiance, elle est plus réduite sur certains aspects hydrologiques à l'échelle régionale ou locale, typiquement. Parce qu'il y aura des effets dynamiques, ou comment vont changer les grandes structures de rails de tempête, ou des choses comme ça, qui restent encore difficiles à évaluer avec confiance.
Les modèles, en fait, ils sont construits à base d'un certain nombre d'équations qui se basent sur un fonctionnement connu des systèmes, donc un peu le système quasi stationnaire, comme on en parlait. Mais est-ce qu'on est également capable de prédire avec suffisamment de précision comment ça se passe quand on sort réellement des...
Alors ces modèles, ils ont eux-mêmes un comportement chaotique par les caractéristiques en particulier de l'atmosphère, et puis c'est l'océan avec son inertie qui rappelle en fait ce côté aléatoire de la circulation atmosphérique. Et donc pour aborder cette question-là, en fait, on va faire des grands ensembles de simulations avec des états initiaux différents pour voir la partie, disons, aléatoire et la réponse déterministe à une perturbation. Donc ça fait partie vraiment des travaux profonds, en fait, issus de la météorologie d'ailleurs, et qu'on applique pour la partie climat et à plus long terme. Et sur l'interaction avec le vivant, donc on va représenter aussi une partie, par exemple la productivité primaire nette sur les continents, dans les océans. On va représenter de manière simplifiée, par exemple, les grandes catégories de végétation et leur effet donc pour le cycle du carbone, mais aussi pour les caractéristiques de réflexion des surfaces et leur couplage avec l'atmosphère. C'est imparfait. Ça fait partie des choses où il y a beaucoup de progrès en fait en ce moment, mais ça reste imparfait. Et les incertitudes, pour moi, les plus profondes qu'on a, c'est par exemple le carbone dans le permafrost, ce que ça va faire, parce que c'est une dégradation microbienne qui se produit, donc difficile à anticiper parfaitement. Ça va être aussi l'écoulement de l'Antarctique, mais je pense que tu en reparleras par la suite. Ça va être l'évolution dynamique à grande échelle de l'océan. Tous ces aspects-là restent associés à une incertitude qui est profonde aujourd'hui.
Merci.
Merci pour le commentaire. Oui, la science, dans ce cas-ci, elle n'est pas exacte. Non.
Mais un élément de réponse aussi, c'est qu'on a, des moyens, non seulement d'améliorer les choses, mais aussi de valider nos modèles en faisant de la rétro-prédiction, c'est-à-dire en regardant avec nos modèles si quand on se place il y a 30 ans, on en serait arrivé là où on en est. Et c'est un moyen, en tout cas en biodiversité, de vérifier que nos modèles ne font pas n'importe quoi et de montrer qu'en général, ils marchent bien. Nous, l'incertitude la plus grande qu'on a, c'est la réaction de la société, c'est les différents scénarios. C'est est-ce qu'on va continuer comme maintenant ? Est-ce qu'on va essayer de changer vraiment la donne ? Ou est-ce qu'on va même empirer ? Pour moi, c'est surtout ça, l'incertitude. Parce que l'incertitude des modèles prédictifs, elle est minime. Sur chaque courbe, autour de chaque courbe, elle est minime par rapport à l'écart entre toutes ces courbes. Et l'incertitude, elle est vraiment là, je pense. Et ça dépend de nous. Hein.
Tu veux encore dire quelque chose ? Ok, je pense qu'il faut conclure. On aura encore l'occasion de se reparler plus tard.